France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Alex Dutille.
Je m'appelle Rhoda Scott. Je suis née le 3 juillet 1938 à Dorothy, New Jersey, et je suis organiste.
Vous m'avez dit dans cette série d'entretiens que vous étiez une fille de la campagne à un moment donné quand vous vous êtes retrouvée à Paris ou à New York. Mais finalement, vous y êtes revenue. Vous vivez loin de Paris aujourd'hui.
Oui, mais j'ai longtemps vécu dans un endroit qui s'appelle Le Perche. Et souvent, personne ne sait où c'est. Mais...
Où est-ce que c'est perché, on se demande.
Le Perche, c'est sur 4 départements, notamment l'Orne, l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Sarthe. Et maintenant, je vis dans la Sarthe, mais j'ai vécu pendant 40 ans dans l'Orne. Et j'ai connu le Perche. Et c'est l'endroit où j'ai vécu le plus dans ma vie. J'ai 83 ans. J'ai jamais vécu quelque part
aussi longtemps.
Pendant 40 ans. C'est incroyable.
C'était une décision avec votre mari ou...
Oui, tout à fait. On voulait trouver quelque chose, un tas de pierres pour venir s'aérer quand on quittait Paris. Et puis, on a trouvé cet endroit et c'est un endroit magique. Et je trouve que j'avais été acceptée par tous les habitants à bras ouverts. Et un journaliste m'avait interrogé comme ça et dit mais vos racines, j'ai dit mes racines sont aux États-Unis, mais j'ai fait pousser des racines dans le Perche. et je me considère une percheronne honoraire.
C'est une jolie définition. Je comprends mieux, Rhoda Scott, pourquoi votre orgue respire, c'est qu'elle respire au grand air. Vous êtes reparti pour finir des études à la Rutgers University de Newark. Vous avez terminé en Master of Jazz History and Research.
Je suis retournée à Rutgers University en 2011. J'avais 75 ans. J'ai eu le diplôme à 75 ans.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre ces études et d'avoir ce diplôme ?
J'avais perdu mon époux et puis j'avais toujours appris qu'il faut rien faire pendant un an après pour ne pas prendre des décisions à la hâte. Alors j'ai attendu, je me suis dit qu'est-ce que je voulais faire. J'ai quitté la maison familiale qu'on avait. Je suis allée vivre près de Chartres, c'était bien après un an. Et puis j'étais là et je dis qu'est-ce que je voudrais vraiment faire? Qu'est-ce que j'aime faire? j'ai de très bons souvenirs des universités, de l'académie. Alors j'ai dit, je voudrais retourner aux études. Et j'ai cherché partout pour savoir quoi faire. Je trouvais rien qui me branchait comme ça. Et finalement, j'ai trouvé le programme Histoire de jazz et recherche. Et c'était à Newark, New Jersey. Ça m'arrangeait. J'ai dit, c'est parfait. J'ai postulé, j'ai été acceptée. Et alors, j'ai mis 3 ans. Mais c'était Dr. Lewis Porter qui était le directeur. C'est lui-même qui a créé le programme. Il était fantastique.
Il ne devait pas avoir beaucoup de musiciens avancés dans leur carrière qui aient postulé pour ce genre d'inscription pour les cours d'histoire du jazz et de recherche. Vous aviez un a priori favorable quand vous avez posé votre candidature.
Je ne sais pas parce que j'ai postulé juste comme
une étudiante.
Et j'ai dû faire preuve d'aptitude pour le programme et tout ça. J'ai dû fournir une page de musique que j'aurais écrite à la main. Et puis, il fallait que je demande 3 recommandations par des gens susceptibles de pouvoir recommander quelqu'un. Mais quand j'ai rencontré Lewis Porter, il m'a dit, oui, je vous connais. On avait Melba Joyce, qui était dans le même programme, qui était chanteuse de Count Basie, beaucoup. Il y avait des musiciens professionnels aussi.
Oui, vous n'étiez pas un cas isolé.
Non. Mais évidemment, Melba Joyce avait le même âge que moi, mais sinon, tout le monde avait 20, 21 ans. Mais ça s'est passé formidablement. Bien. Et dis donc, on va aller boire une bière, machin, là-bas, tu viens? J'ai dit, je vais pas aller boire une bière avec. J'ai dit, oh non, mais je crois que je vais rentrer. Mais c'était une bonne période pour moi. Si je pouvais, je recommencerais avec un autre sujet.
En tout cas, ça a été l'occasion pour vous de revenir aux États-Unis que vous aviez quitté.
Oui, et j'étais obligée de décider à la fin, quand j'ai eu mon diplôme, est-ce que je reste ici parce que j'étais de nouveau implantée là? Est-ce que je reste ici ou je retourne en France? Mais mes enfants sont en France. Ma fille attendait un enfant, donc mon premier petit-fils. C'était pas difficile à décider. J'ai dit, je retourne en France.
Les années 2000, il y a un événement marquant qui est en 2004, c'est la création à Vienne, au Festival de Vienne, du Lady Quartet avec Erel Besson, Sophie Allour et Julie Sory. Puis après, il y aura des changements dans le groupe, mais d'où est venue cette idée? C'était une envie du Festival de Vienne ou c'était une envie de Rhoda Scott?
C'était une envie de remplacer quelqu'un qui avait décommandé. Abby Lincoln devait faire la tête d'affiche sur Ladies' Night et elle a commandé à la dernière
minute.
Elle
a annulé le concert.
Oui, à cause des problèmes de santé. Et puis Jean-Pierre Vignola m'a téléphoné. Lui, c'était le directeur artistique. Il m'a dit, il faut que tu fasses une quartette de femmes. À 2004, j'aurais été incapable de dire. Je lui ai dit, je ne connais pas de musicienne en France. Il dit, ben moi, j'en connais. Et je vais vous mettre en rapport Alors, c'est lui qui m'a mis en contact avec RL, Julie et Sophie.
Et Sophie, qui était très peu connue aussi à cette époque-là. Elle débutait à peine.
Oui, elles étaient toutes jeunes et intimidées, je pense, parce que on devait préparer ça. Alors, on s'est dit, on va se voir à Paris. On était dans un studio, il y avait un piano et les filles avaient leurs instruments. Et puis, on a discuté du répertoire, qu'est-ce qu'on pourrait jouer. Après, on a à peu près décidé qu'on allait faire comme ça. Après, on est allé en face au bistrot pour boire un coup. Et puis là, on a bavardé. Et puis, on ne sait plus. Les filles m'ont plu et je dois penser que ça n'a pas été trop mal avec elles. Et puis, on a joué notre concert sur le grand théâtre antique de
8 000
Vienne.
Personnes.
Oui, j'aimerais bien voir le concert. On avait toutes les quatre le track. Le concert, ça s'est très bien passé. C'est Didi Bridgewater qui nous a présenté. Et elle m'a dit, Rhoda, faut pas arrêter ça. Elle dit, j'avais des larmes aux yeux quand j'ai vu comment les filles te regardaient et tout ça. Elle dit, écoute, il faut continuer comme ça. Mais on s'était dit de nous-mêmes, on va pas se quitter comme ça. Et on a continué à jouer à quelques festivals. Entre-temps, RL, qui fait une carrière formidable, elle était de plus en plus prise ailleurs. Et on a eu Lisa Catbarro qui venait à sa place. Donc, on avait une alto et un ténor. On a continué à jouer. Et puis, on a fait un engagement au Sunset à Paris.
Musique, les grands entretiens de Rhoda Scott.
C'est formidable le Sunset parce qu'on joue coude à coude. Parce
oui, il n'y a pas 8000 personnes.
Et non, et puis on était tout ensemble serrés et tout ça. Et le public, juste devant nos mentons, on a commencé à faire des expériences en dehors de notre répertoire. Les filles ont commencé à composer des morceaux pour nous. Et puis, on est devenu de plus en plus proche et on a pris de plus en plus confiance en nous. Et des fois, quand une des filles ne pouvait pas venir, on avait un remplaçant. On avait Géraldine Laurent qui venait.
Au saxophone alto.
Au saxophone. On avait Anne Passio qui venait à la batterie pour remplacer Julie. On a eu Aurélie Tropez qui nous a fait des remplaçants aussi formidables. C'était la première fois à la clarinette qu'on avait joué. Mais on a continué, on a fait une première CD, après comme Stéphane Porté du Sunset, et il a produit notre deuxième CD.
Qui est enregistré du coup en concert au Sunset.
En live, oui. Mais à mes 80 ans, pour mon anniversaire, ça avait été suggéré de prendre toutes les filles qui avaient joué avec nous, remplaçant ou bien en invité. On a fait les All-Stars.
Et c'est là que vous avez aussi rajouté le saxophone baryton de Céline Bonacina.
Céline Bonacina, c'est la dernière arrivée.
Et qui amène un son très particulier aussi, le saxophone baryton du coup, à côté de l'orgue.
Ah oui, c'est formidable. La première fois qu'elle a joué avec nous, tout le monde a dit, il faut qu'elle reste, on la veut.
Composition que chacune des musiciennes amène dans votre quartet ou dans le All Star, il y a aussi à côté de ça quelques reprises, mais vous avez toujours fait des reprises de standards ou de morceaux assez connus, et je crois que vous les reprenez parfois, ces morceaux, à cause des paroles qu'on n'entend pas, mais que vous connaissez et vous êtes attaché à ces chansons à cause des paroles. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Je pense que les paroles sont très importantes. Normalement, toutes les ballades, les chansons standards que je joue, normalement, je connais toutes les paroles. J'avais un chanteur une fois, il oubliait toutes les paroles. C'était moi qui lui donnais les paroles de l'orgue. C'est vrai, les paroles sont très importantes.
Quand vous jouez ces compositions-là, vous récitez, vous chantez les paroles dans la tête en même temps?
Ah oui, je connais les paroles font partie.
Qui fait des arrangements dans le Lady Quartet ou le Lady All Star? Parce que il y a l'apport des compositions, mais quand il y a plusieurs souffleurs, et l'orgue fait partie des instruments à souffle, pour le coup, il y a la nécessité d'arranger pour que ça sonne. C'est la compositrice qui fournit l'arrangement en même temps, ou il y en a une dans le groupe qui est chargée de ça?
Ça arrive que c'est la compositrice qui demande certaines choses, mais pour l'harmonisation des soufflants, c'est Lisa Catbarrow. Elle est géniale. Elle peut faire des arrangements. Et c'est une grande compositrice. Et même elle est chanteuse aussi, j'adore sa voix. Et elle est bonne pour orchestration.
Dans les années récentes, c'était en 2017, vous avez participé à un trio étonnant qui avait été enregistré au Triton avec Christophe Moniaud pour le saxophone et Jeff Boudreau pour la batterie. Jeff Boudreau, originaire de la Nouvelle-Orléans, donc encore un style de batterie particulier. Saxophone alto chez Christophe Moniaud, c'est pas un ténor comme vous les utilisez d'habitude. Comment ça s'est passé, cette initiative? Est-ce que c'était une idée du Triton de vous inviter tous les trois, ou est-ce que c'est l'un des deux autres musiciens qui a fait appel à vous?
C'est Christophe Moniaud qui m'invitait pendant très longtemps. Je le connaissais pas, et chaque fois je disais non, je suis pas libre et tout ça. Et force de l'invitation tout le temps, à l'usure, j'ai dit bon, d'accord. J'ai dit, mais on ne répète pas. Pas de répétition. Il a dit d'accord. Et puis on s'est trouvé au Triton l'après-midi pour la balance.
Vous n'aviez pas travaillé ensemble avant?
Du tout. C'est la première fois que je l'avais vu. Je pense qu'il s'était bien préparé. Il avait écouté sans doute. Au moins, il avait compilé une liste des morceaux que je jouais ou qui pensait que je pourrais jouer. Ça s'est passé comme magique. On a fait juste la balance en essayant les morceaux. Jeff Boudreau est formidable aussi à la batterie. J'ai pas vu le temps passer. C'était formidable. C'était un très bon souvenir.
fait un parcours sur votre carrière, Rhoda Scott. J'imagine qu'aujourd'hui, je suis sûr, vous avez encore des envies de choses inédites que vous n'avez pas encore faites ou de gens avec qui, d'artistes avec qui vous n'avez pas encore travaillé. Il y a un projet qui vous tiendrait à cœur si vous aviez tout d'un coup là une baguette magique et tout est possible. Vous auriez envie de faire quoi?
Mais c'est drôle, je n'ai jamais rêvé à faire quelque chose. Tout ça,
c'est arrivé, vous n'avez pas décidé, c'est arrivé.
C'est comme Christophe Moniel qui m'a invité, comme Mère Louise qui avait dit on devrait faire un CD ensemble, comme Bruno Cocatrix qui m'a demandé à faire l'Olympia, Denis Glaser. Je lisais un verset de la Bible, on disait, quel que soit mon état, je me contente de comme je suis. Moi, je suis très contente, j'ai des projets. Parce que je trouve que je devrais rester ouverte aux projets qui me sont comme le Lady Quartet, c'est Vignola qui m'a fait faire ça. Et heureusement, je le remercie beaucoup. Je dois jouer sur un orgue hybride en mars 2022. Et c'est le seul orgue de son état en Europe.
C'est quoi un orgue hybride?
Ce sont des orgues à tuyaux, mais c'est... numérique, c'est comme un orgue à tuyau au synthétiseur. C'est la combinaison des deux possibilités. Je pense qu'il y a 2500 tuyaux. C'est à Angers.
C'est un orgue expérimental, du coup.
Oui, c'est le printemps des orgues. Angers, qui a rêvé ça, et ça s'est fait avec beaucoup de détermination et tout ça. L'orgue a tellement de possibilités. Il y a tous les registres des orgues classiques, le bourdon, la trompette,
le piccolo,
tout. C'est pas un orgue de théâtre. Il n'y a pas de vaisselle cassée, par exemple, comme l'orgue de Gaumont. Mais on peut avoir de la harpe. Et moi, j'aime bien faire la harpe avec mes registrations.
Et il y a un pédalier?
Ah ben. Il y a un pédalier, un plein pédalier, parce que le B3, il a 25 notes au pédalier. Cet orgue a 32 notes au pied.
Il faut faire le grand écart, alors.
Et il a 3 pédales d'expression, ou peut-être 4. Et c'est un projet où on va jouer avec Emmanuel Bex aussi. Donc c'est un projet... Comme on est venu me chercher pour faire ça aussi. Ma joie, c'est, je ne sais pas quel est le prochain projet qu'on va me proposer.
Je vois que le mot de la fin, Rhoda Scott, c'est que vous pouvez faire l'économie du désir parce que vous êtes désirée.
J'aime beaucoup ce terme.
De Rhoda Scott dans Short Light Blues. Ben nous, on va refermer notre petite lumière puisque c'était le dernier épisode de ces grands entretiens avec Rhoda Scott. Vous trouverez toutes les références musicales sur le site de l'émission, sur francemusique.fr. Le lien pour réécouter en streaming ou en podcast cette série d'émissions est aussi sur francemusique.fr. Avec moi, Philippe Mercher, Élise Le, Marie Ferdinand, et la réalisation est signée Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.